La femme était penchée au-dessus de son bien-aimé, le visage et le corps tout entier figés de terreur. Elle regardait fixement sa main tachée de sang. Lui était couché sur le dos, un bras quasiment arraché, la paume de la main retournée, comme s'il la priait d'y déposer quelque chose. Sa vie, peut-être. Elle lui toucha la poitrine pour l'exhorter à se lever et à s'enfuir avec elle, mais il ne bougea pas. Elle se mit alors à le secouer, quelle marmotte, jamais disposée à sortir du lit. Sa main était rouge, et instinctivement elle la pressa contre sa bouche pour étouffer un hurlement. Elle ne devait pas faire de bruit, elle le savait bien, ni leur faire savoir qu'elle était là. Mais l'horreur finit par avoir raison de sa prudence, et elle cria son nom. Elle le cria encore et encore, en se disant qu'il était mort, et que tout était fini, que tout s'était achevé ainsi, dans le sang. Elle regarda l'endroit où elle avait posé sa main et vit les traces pourpres. Comment autant de sang avait-il pu en couler, alors qu'elles étaient petites, si petites? Elle frotta sa main contre sa bouche, vit qu'elle était rougie par le sang répandu sur son visage. Paniquée, elle dit son nom. Tout était fini, vraiment fini. Elle répéta son nom, plus fort encore, mais il ne pouvait plus l'entendre, ni lui répondre. Elle s'inclina spontanément pour l'embrasser, le saisit par les épaules dans une vaine tentative de ranimer un peu d'ardeur en lui, mais ils étaient désormais l'un et l'autre privés de vie. Le chef de la bande qui l'avait tué poussa un grand cri sur sa gauche. Elle plaqua sa main sur sa poitrine. Elle voulait parler, mais en proie à la peur, elle ne put que grogner. Ah, ah, comme une bête blessée. Elle tourna la tête et les vit. Elle les entendait hurler, mais sans parvenir à comprendre leurs mots. Elle ne ressentait plus que la terreur, et maintenant qu'il était mort, une crainte soudaine pour elle-même, pour ce qu'ils allaient lui faire. Elle se leva et s'éloigna de lui sans un regard en arrière. Il était mort et tout était fini, tout espoir était éteint, toute promesse tarie. Les hommes, quatre sur la gauche et cinq sur la droite, sortirent sur le toit encombré de détritus où avait eu lieu le crime. Le chef du groupe cria quelque chose, mais elle n'était pas en état de l'entendre, ni d'entendre rien, ni personne. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle devait s'échapper, mais il l'avait prise en tenaille. Elle se tourna et aperçut derrière elle le bord du toit, sans aucun bâtiment en vue. Elle n'avait nulle part où aller, nulle part où se cacher. Elle avait le choix, mais pas véritablement. La mort était préférable à ce qu'il venait de se produire, ou se produirait inévitablement dès qu'il la capturerait. Elle trébucha une fois, puis deux, en courant vers le rebord, où elle grimpa avec une grâce inattendue, avant de se tourner pour regarder les hommes qui se précipitaient vers elle. « Oh Scarpia, avanti a Dio » lança-t-elle, puis elle pivota et sauta. La musique s'affaiblit, continua à gronder encore un peu, comme toujours lors de ses finales à sensations un peu pathétiques, puis un long silence s'installa, le temps que le public assimile ce qu'il venait d'entendre et de voir. Depuis la Calas, autrement dit un demi-siècle, on n'avait rien vu ni entendu du niveau de cette Tosca. Tosca avait réellement tué Scarpia, le chef de la police, n'est-ce pas? Et son bien-aimé avait réellement été tué par ces saligauds en uniforme, et elle avait réellement sauté dans le Tibre. Dieu, cette femme savait jouer, et savait mieux encore chanter.